Nous avons vu que l'homme a un esprit qui lui permet de communier avec Dieu. Mais l'homme possède aussi une âme qui, en quelque sorte, est la conscience qu'il a de lui-même. C'est par l'activité de son âme que l'homme prend conscience de son existence. L'âme, c'est le siège de la personnalité. Nous en avons déjà parlé, l'intelligence, la pensée, les idéaux, l'amour, le sentiment, le discernement, le choix, les décisions ne sont que des expériences variées de notre âme. Et ce qui constitue en quelque sorte notre personnalité, c'est ces trois principales facultés, donc la volonté, l'intelligence et le sentiment ou l'émotion. La volonté, c'est nous permet de prendre des décisions et elle révèle notre capacité de choix. Elle exprime notre volonté, exprime notre refus ou notre consentement. Nous voulons ou nous ne voulons pas. Et sans la volonté, en quelque sorte, l'homme serait réduit à un automate qui ferait la volonté de quelqu'un d'autre. Dieu nous a donné cette capacité de choix et c'est par notre volonté que nous l'exerçons. Notre intelligence, c'est en quelque sorte l'instrument de nos pensées. Notre intelligence manifeste nos capacités intellectuelles. Et on se rend compte de l'intelligence aux effets qu'elle produit, comme la sagesse, la connaissance ou encore le raisonnement, la rationalité. Ben, si on n'a pas d'intelligence, on est tout simplement idiot. Tandis que ce qui détermine en quelque sorte nos préférences, nos antipathies, c'est la faculté du sentiment, ce sont nos émotions. Et par le sentiment, par ce côté de l'émotion, on est capable d'exprimer bien l'amour, bien sûr, la haine, ou d'être joyeux, ou frustré, ou triste, ou fâché, ou heureux. C'est cet organe qui nous permet d'être sensible en quelque sorte. Et sans cet organe émotif, des émotions, du sentiment, nous serions bien complètement comme des pierres, hein, comme le bois ou la pierre, sans sensibilité qui puisse être exprimée. Lorsque nous lisons la Bible, découvrons en fait ces trois grandes qualités, j'irais dire, de notre âme. Alors, je vais vous donner quelques références bibliques pour que vous les cherchiez. Alors, dans le premier exemple concernant la volonté, la faculté, la capacité de l'âme à vouloir, sa faculté de volition, eh bien, psaume 27, verset 12. « Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. » Psaume 41, verset 3. « Je t'ai livré à la volonté de tes ennemis. » Ou à l'âme de tes ennemis. Psaume 35, verset 25, « Ah, voilà ce que nous voulions. » 1 Chronique 22, verset 19, « Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel. » Job 6, 7, « Ce que mon âme ne voudrait pas toucher. » Job 7, verset 15, « Ah, je voudrais, ou mon âme choisirait, d'être étranglée, la mort plutôt que ses os. » Ça, c'est quelques versets parmi beaucoup d'autres qui vous donneront, vous confirmeront ce que nous venons de partager il y a un instant. La deuxième partie de l'âme, c'est cette faculté de compréhension, d'intelligence, d'entendement. Alors, vous trouvez cela dans Proverbe 19, verset 2. le manque de connaissances n'est bon pour personne. Psaume 13, verset 3, « Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme ?» Lamentation 3, verset 20, « Quand mon âme s'en souvient. » Proverbe 2, 10, « La connaissance fera les délices de ton âme. » Proverbe 3, 21 et 22, « Garde la sagesse et la réflexion. » Elles seront la vie de ton âme. Proverbe 24, 14, connais la sagesse pour ton âme. Donc c'est la capacité de l'âme, de l'intelligence, de l'intellect, de la rationalité, de l'entendement aussi. Il y a plusieurs traductions qu'on pourrait donner pour ce mot-là. Ce n'est jamais la dimension de l'esprit, hein, jamais. Enfin, la troisième partie, peut-être qui est la plus importante, parce que c'est celle qui répond à une sensibilité, une dimension de sensibilité, c'est cette faculté du sentiment et de l'émotion, et c'est ce qui va majoritairement faire bouger l'être humain dans sa marche chrétienne. Alors l'émotion dans la dimension affective, hein, eh bien nous avons « L'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme » 1 Samuel 18:1. Dans le Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 7, « Toi que mon cœur, exactement mon âme, aime » Luc 1, verset 46, « Mon âme magnifie le Seigneur. » Zacharie 11, 8, « Mon âme avait aussi pour eux du dégoût. » Et un qui est très important, un verset est très important, dans Deutéronome chapitre 6, verset 5, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme. » Donc l'émotion dans le sens affectif, hein. Nous allons voir l'émotion dans le sens de désir. De désir, donc le désir étant la base de l'amour. Hein. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Psaume 84, verset 3. Mon âme te désire pendant la nuit. Ésaïe 26, verset 9. Mon âme prend plaisir. Matthieu 12, verset 18. Il y a aussi beaucoup d'autres références, je ne vous en donne que quelques-unes pour appuyer ce que nous venons de voir. Le troisième point dans le cadre du sentiment et de l'émotion, bien c'est la sensibilité, la dimension de sensibilité. Une âme te transpercera, une épée te transpercera l'âme. Luc 2, verset 35. Tous avaient l'amertume dans l'âme. 1 Samuel 30, verset 6. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Ésaïe 61, verset 10. Jusque à quand affligerez-vous mon âme ? Job 19, 2. Leur âme était languissante. Psaume 107, verset 5. Pourquoi t'as battu, mon âme ? Psaume 42, verset 6. Votre âme se délectera de mes succulents. Isaïe 55, verset 2. Enfin, le Seigneur qui dit cela, mon âme est triste jusqu'à la mort. Matthieu 26, verset 38. Et maintenant, mon âme est troublée. Jean 12, verset 27. Donc nous voyons vraiment que l'âme de l'homme contient en elle cette dimension de volonté, cette dimension d'intelligence et cette dimension d'émotion. La vie de l'âme, c'est la vie naturelle de l'homme. Vous rappelez que dans Genèse 2, 9, il est dit que le souffle de Dieu, dans le corps d'argile fait de poussière de la terre, lorsque ce souffle est rentré, dans ce corps d'argile, il est dit que l'homme devint une âme vivante. Donc la vie de l'âme, c'est la vie naturelle de l'homme. Il est dit aussi que la vie est dans le sang. En quelque sorte, le sang représente l'âme de l'homme. Ce qui est assez remarquable, c'est qu'il est reconnu sur un plan médical que dans le monde, deux personnes qui ont le même groupe sanguin et le même rhésus, ces deux personnes sont plus proches que deux personnes de même race. Vous voyez bien que la vie de l'âme, elle est dans le sang, et c'est véritablement la vie de l'homme. La vie, c'est le phénomène de l'âme. La vie de l'homme, la vie naturelle, c'est en quelque sorte la combinaison des énergies mentales, émotionnelles, volitionnelles. C'est la vie naturelle. Et c'est quelque chose qu'il faut bien garder en mémoire, d'abord reconnaître, mais garder en mémoire, parce que cela influe considérablement sur le développement de notre vie chrétienne. Soit on va vers la spiritualité, parce qu'on comprend que la vie de l'âme, la vie naturelle, ne peut pas accomplir les œuvres de Dieu, soit on exacerbe la vie de l'âme, la vie psychique, et c'est le psychique qui prend le dessus, et nous ne sommes plus dans une dimension spirituelle, c'est-à-dire nous ne pouvons plus être conduits par l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu nous conduira seulement par notre esprit. Ce sont les choses de même nature qui peuvent communiquer de façon efficace. Donc l'âme, c'est le siège de notre personnalité, de notre vie naturelle. En quelque sorte, on pourrait dire aussi que l'âme, c'est véritablement notre moi réel, notre moi-même. Et regardez dans le chapitre 30 des Nombres, on trouve 10 fois le verbe « se lier ». Et dans l'original, ce qui est intéressant, c'est « lier son âme ». Et on lie son âme simplement par des paroles. L'âme, c'est notre propre moi. Alors, il y a d'autres endroits où, dans la Bible, à part chapitre 30 des Nombres, vous trouvez dans le Lévitique 11, verset 43, il est parlé de vos personnes, ou de vos âmes. Chaque personne, Exode 12, 16, ou chaque âme. Dans Nombre 23, 10, il est parlé de « je », mais en fait, c'est « mon âme ». En Lévitique 2, 1, il est dit « quelqu'un », mais c'est en fait une âme quelconque. Quand on regarde le mot en hébreu, ça correspond à « âme quelconque ». Trouvons cela dans l'Ancien Testament, mais bien sûr dans le Nouveau Testament, c'est pareil. Hein, par exemple, dans 1 Pierre 3,20, le terme original qui est employé pour 8 personnes, c'est en fait 8 âmes. Ou bien dans Actes 27,37, il est dit 276 personnes. En fait, c'est marqué 276 âmes. Dans Jacques 5, aussi, verset 20, il est dit « sauver une âme », cela équivaut à sauver un pécheur. Et si vous regardez bien dans Luc, chapitre 12, verset 19, les paroles du riche insensé flattant son âme sont regardées comme étant adressées à lui-même. C'est donc bien clair que dans la Bible, dans son ensemble, l'âme de l'homme et la vie de l'homme, c'est l'homme lui-même. D'ailleurs, le Seigneur le dit bien dans 2 évangiles différents. Regardez dans Matthieu 16, verset 26, « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ou sa vie ?» ou que donnerait un homme en échange de son âme ou sa vie. Et en Luc 9, verset 25, la chose est un petit peu différente. Il dit que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même. Donc la vie ou l'âme, ou lui-même, c'est pareil. Avant la régénération, c'est-à-dire la nouvelle naissance, la naissance d'en haut, tout ce qui est inclus dans la vie, que ce soit le moi, la vie, la force, le pouvoir, le choix, la pensée, l'opinion, l'amour, la sensibilité, appartient à l'âme. La vie de l'âme, en fait, c'est la vie que l'homme hérite à sa naissance. Et tout ce que cette vie possède, tout ce qu'elle peut devenir, c'est du domaine de l'âme. Alors, si nous apprenons à reconnaître distinctement ce qui est psychique, ça sera beaucoup plus facile pour nous plus tard de reconnaître ce qui est spirituel. Et nous allons pouvoir nous-mêmes, en fait, séparer le psychique, ce qui vient de l'âme, du spirituel, ce qui vient de l'esprit. Je ne vais pas revenir sur la dimension de la chute, parce que nous en avons déjà parlé, et sur ce qu'elle représente. Je veux simplement rappeler ceci, c'est que dans la pensée de Dieu, Dieu a toujours voulu que ce soit l'esprit qui ait la prééminence et dirige notre âme. Que notre âme serve notre esprit, notre âme doit aussi assujettir le corps. C'est-à-dire que le corps doit servir l'âme, l'âme doit servir l'esprit, et le corps forcément sert l'esprit. C'est pour ça qu'il est si important, et c'est pour cette raison-là d'ailleurs, que le Seigneur dans la Nouvelle Alliance nous donne un nouvel esprit, parce que notre esprit étant mort à Dieu, mais ouvert aux puissances de ténèbres, au monde de ténèbres par la chute, nous ne pouvons pas marcher avec Dieu si nous n'avons pas un nouvel esprit. C'est pour ça que Dieu nous donne ce nouvel esprit qui va pouvoir être servi par notre âme et bien sûr par notre corps. Si Dieu nous donne un nouvel esprit, il ne nous donne pas une nouvelle âme. Notre âme nous appartient. Et c'est notre responsabilité de faire le travail, de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. C'est le travail que nous devons faire de notre âme, c'est-à-dire le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ, c'est-à-dire détruire les forteresses de pensée, c'est-à-dire plier, soumettre notre volonté à celle de Dieu, c'est-à-dire faire taire notre âme pour qu'elle reçoive de Dieu tout ce dont elle a besoin pour pouvoir être une servante parfaite de notre esprit et donc accomplir dans le corps les choses, les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous à l'avance, pour que nous les fassions.